Stop, c'est parti. Comment ça marche le journalisme?
Sur Twitter, Instagram.
On est dans un moment de grande confusion.
C'est votre dernier mot.
9h40, nous sommes tous sur France Inter et c'est le dernier instant même de la semaine.
Quand on regarde une série, on sait que ça va se terminer.
Vous me spoilez? Le
spoil. On ne se ferme pas les yeux aussi facilement qu'on se bouche les oreilles.
Alain Genestard était le directeur de la rédaction de Paris Match dont il fut débarqué, on s'en souvient, pour avoir publié en couve une photo de Cécilia Sarkozy avec son nouveau compagnon. La dame était mariée alors au ministre de l'Intérieur. Après cela, en 2007, il a fondé une galerie et un très beau magazine, Polka. Un pied dans le photojournalisme qu'il défendra jusqu'à son dernier souffle, l'autre dans la photo d'art. L'homme ressasse l'incessante question du récit du monde par l'image, de la responsabilité qui incombe à ceux qui produisent et diffusent justement les images, de la responsabilité qui incombe à ceux qui contrôlent, voire qui remettent en question l'existence même de certaines images, de la photographie, du beau, du bon, du politique.
L'instant M. Sonia de Villers sur France Inter.
Et me voici heureuse de recevoir Alain Genestard. Bonjour.
Bonjour Sonia de Villers.
Et soyez le bienvenu parce que Polka, voilà, devient un trimestriel. Il y aura trois Polka.
Ouais, alors trimestriel, c'est quatre.
Quatre.
Donc trois fois par an.
Trois fois par an.
C'est et joli, trois fois
oui,
par an. Donc c'est tous les quatre mois.
Pied dans le tapis à chaque fois. Il y aura trois Polka par an. Voilà. Car en effet, il y a quatre trimestres. C'est le cas.
On oublie ça, c'est l'école qui fait ça. On oublie toujours, il y a trois trimestres où on travaille et puis il y a un trimestre
ça,
de vacances.
On est en vacances. Donc voilà, Polka magnifique qui sort en kiosque au moment où ouvre ses portes à Paris, Paris Photo. Paris Photo, il faut le savoir, c'est la plus grande foire de photos au monde. Mmh. Plus grande foire. Hein. Mmh. À Paris, les galeristes du monde entier s'y montrent et s'y vendent. Alors c'est assez drôle, j'y suis allée hier. L'entrée est un peu chère. Hein. Si vous passez par Paris, c'est 32 €. Ça fait cher la sortie parisienne, familiale, mais bon. On en prend plein les yeux.
Oui, on peut passer la journée. Hein,
à Paris, oui, on peut passer la journée. D'ailleurs, facilement. Même
on
en
revient,
une fois, c'est difficile de tout voir. Et on croise des photographies à 1 000 €, des photographies à 1 million d'€. Mmh. On croise des chefs-d'œuvre historiques de la photographie, par exemple, sont exposés à la Galerie Gagossian, toutes les photos originales de Man Ray.
Formidable, voilà. C'est extraordinaire. C'est une très belle collection, il faut vraiment aller la voir. Parce que c'est ça aussi, Paris Photo, c'est une foire, donc on achète,
Ouais. Mais
franchement, on s'y promène, il faut s'y promener comme ça, à la lumière du nez, et puis d'un seul coup, vous passez devant une galerie et vous regardez une image, pas besoin de demander le prix, forcément.
Non, voilà. Et on croise Capa, Elliot Erwin, on croise Avedon, bref, on croise tous les grands noms de la photographie. On va en parler avec vous dans un instant, Alain Genestard, de la photo en général et même de l'image. Le vendredi, il y a Bruno Donnet à mes côtés pour sa semaine médiatique. Ça va, Bruno?
Bonjour Sonia, ça va très bien, merci.
Et il y a évidemment la Madeleine. Alors, aujourd'hui, notre petit jeu, chers auditeurs, je veux le nom de ce dessin animé japonais diffusé pour la première fois sur FR3 en 1986. Le premier arrivé gagne un cadeau dont je suis très jalouse ce matin, le nouveau Corto Maltese d'après Hugo Pratt, qui n'est plus évidemment. Oui, on a ressuscité ce bel aventurier brun ténébreux dont je fus follement amoureuse. Alors c'était quoi ce dessin animé? Comment ça s'appelle? L'instant M at radiofrance.com. Bruno Donnet, aujourd'hui, Bruno, vous avez choisi de revenir sur la façon dont les JT ont traité la privatisation de la Française des Jeux. Car vous nous dites que cette semaine, on a touché le gros lot.
Oui, bingo Sonia, cette semaine plus que le gros lot, on a surtout touché le fond. Pourquoi? Eh bien parce que la plupart des sujets qui me sont tombés sous la rétine ressemblaient davantage à des spots publicitaires qu'à des reportages d'informations. Alors, pour commencer, il faut quand même que je vous raconte ce que j'ai entendu pendant toute la journée d'hier, passé en boucle sur les chaînes info. Une magnifique déclaration signée Bruno Le Maire, qui, aussi cocasse que ça puisse paraître, n'a pas suscité le plus petit commentaire critique. Et pourtant, ouvrez grand vos oreilles, car le ministre de l'économie, privatiseur de loterie, a quand même dit au sujet de la Française des Jeux ceci.
Elle doit appartenir aux Français grâce à la participation populaire la plus large possible.
Voilà. Alors quelqu'un aurait quand même pu lui faire remarquer que la Française des Jeux ne doit pas appartenir aux Français, vu qu'elle appartient aux Français et que s'il appelle à une large participation, c'est uniquement parce qu'avec cette privatisation, l'État va de facto revendre aux plus riches ce qui jusqu'ici appartenait à tout le monde.
C'est
bien.
Ça.
Alors, vous allez me dire qu'un ministre vienne faire dans le poste la tambouille et la pub de sa politique, c'est le jeu. Bon, admettons, un ministre, peut-être. Mais est-ce que c'est aussi le rôle d'un journaliste? Je pose la question, chère Sonia, parce que pendant ces 48 dernières heures, j'ai vu, toutes chaînes confondues, une palanquée de reportages, tous plus hallucinants les uns que les autres. Partout, on avait le sentiment qu'il s'agissait d'un joyeux événement, d'un truc très guiret, d'une aubaine, qu'on attendait tous frénétiquement.
Ça y est, la privatisation de la Française des Jeux, cette entreprise publique très populaire, est lancée.
Et dont l'angle était au mieux de répondre à ces tant et tant de questions.
Est-ce que les investisseurs se précipitent
et au pire de produire une gigantesque incitation à aller acquérir dardard des actions, la palme revenant incontestablement aux 20h de TF1 qui a réussi mercredi un authentique exploit. Figurez-vous qu'ils sont parvenus à débuter leur reportage dans un bureau de tabac et à mettre la main sur une femme qui, tout en remplissant sa grille de loto, leur a confié ceci.
On a beaucoup gagné quand même.
Ouais, vous avez bien entendu, ils ont dégoté quelqu'un qui a beaucoup gagné au loto. Et c'est combien beaucoup ?
Le maximum, c'était combien ?
250 000.
250 000 euros, la vache, quel coup de bol, hein. Alors si je vous fais entendre tout ça, Sonia, c'est parce qu'à aucun moment je n'ai entendu dans ce reportage, ou dans un autre, que la plupart de ceux qui jouent au loto perdent, que la Française des Jeux est avant tout une entreprise qui pique dans la poche des plus pauvres, ceux qui jouent le plus, pour permettre à l'État de gagner du flouze, que le jeu est, pour quantité de personnes, un vice épouvantable qui conduit à des situations dramatiques, et que depuis l'ouverture des paris sportifs en ligne, un nombre terrifiant de jeunes gens souffrent de cette addiction et que plus personne ne sait aujourd'hui comment réagir face à ce nouveau fléau. Dommage, vraiment dommage qu'aucun reportage n'ait choisi d'aller gratter ces sujets plutôt que des petits tickets de loto rigolo. Et voilà pourquoi je crois qu'on peut dire que cette semaine, en matière d'à peu près et de cynisme, nos petits camarades ont coché toutes les cases.
Ouf ! À réécouter sur franceinter.fr, chers amis, précipitez-vous. Et puis bravo à Julia. Julia, vous avez été la première à trouver la réponse du jeu ce matin. Sachez qu'on n'a jamais reçu autant de réponses sur la boîte mail de l'Instant M. De l'Instant M, il fallait reconnaître ceci. Voilà, la boîte mail est en train de bugger. C'était le dessin animé préféré de toutes les petites filles de ma génération.
L'Instant M, c'est aussi en vidéo sur franceinter.fr.
Dans le nouveau numéro de Polka Magazine en kiosque, il y a un très long entretien du photographe brésilien, une superstar, Sebastião Salgado. Il est âgé de 75 ans. Un jour, il était l'invité de la matinale de France Inter. Dernière question de la matinale. Monsieur Salgado, êtes-vous sur Instagram ? Réponse et dernier mot du photographe.
Non, je ne suis pas sur Instagram parce que pour moi, je suis photographe. Ce qu'il y a sur Instagram, c'est pas la photographie, c'est un nouveau langage qui s'appelle l'image.
C'est bien.
Alain Genestar, c'est bien.
C'est bien, c'est bien. Il aurait pu répondre.
Toutes les photographies sont des images. Ouais. Toutes les images ne sont pas des photographies. Voilà. C'est cela que ça signifie.
Tout à fait. Vous savez, photographie, ça vient du grec et ça signifie écrire avec la lumière. C'est beau, hein.
Oui, c'est très
beau. C'est plus beau que, comme expression. Tout à l'heure, il y avait de la poésie avec avec François Morel. Hein, on continue. Et Sebastião Salgado, il a parfaitement raison. La photographie qu'il fait, la vraie photographie, c'est une photographie qui justement utilise la lumière. Et il est l'un des grands écrivains de la lumière. Mmh. La photographie, à la différence de l'image, c'est une écriture. Et dans une écriture, il y a de tout, d'ailleurs. Il y a de belles écritures, il y a de mauvaises écritures. Et puis l'écriture, ça sert à tout. Ça sert à défendre des causes. Là, c'est plutôt Salgado.
Ouais.
Mais ça peut servir aussi à accuser. Ça sert à informer, ou combien. C'est le photojournalisme. Mais ça sert à désinformer, c'est la propagande. Donc, derrière la photographie, il y a l'essentiel. C'est un photographe. C'est-à-dire qui a pris la photo, à quel moment, pourquoi faire. Et nous, notre rôle d'éditeur, tout comme votre rôle de diffuseur, c'est de savoir qui vous parle et de savoir qui a pris la photo.
Justement, c'est ce qui m'intéresse ce matin, c'est de réfléchir avec vous aux incidences de ce nouveau langage dans le débat public, à la portée sociale et politique de l'image en général et de la photographie en particulier. Je prends un exemple très récent, Alain Genestar, sur la force de la photo, la façon dont elle peut faire basculer le débat public. Correspondant du Parisien aujourd'hui en France, il s'appelle Alain Boléry et il a pris en quelques secondes ce cliché qui est devenu instantanément un symbole, celui de cette mère voilée câlinant, consolant son fils en pleurs lors d'une sortie scolaire au Conseil Général de Bourgogne. Un élu RN, on s'en souvient, intime l'ordre à cette femme de retirer son voile. Le débat public sur le voile, il était déjà là. Cette photo, elle le fait instantanément basculer.
Elle le fait basculer, mais elle le fait basculer du bon côté. Elle le fait basculer du côté de l'humanité, du cœur.
C'est ça.
C'est une maman et son enfant, et l'enfant est choqué de voir l'agression sur sa maman. S'il n'y avait pas eu cette photo, ça resterait... l'attaque était de toute façon condamnable et insupportable. Là, d'un seul coup, ceux qui ont pu voir cette photo dans le Parisien, puis sur les réseaux sociaux, c'est ça aussi le bien des réseaux sociaux, c'est qu'instantanément,
on
peut montrer.
En quelques heures,
a compris à quel point ce propos était violent, était indigne. Et face à cette indignité, il y avait cette photo qui était une photo de dignité, d'amour.
Et d'humanité. La photo dans le débat public, on continue, vous consacrez dans votre dernier numéro un long papier très intéressant à la représentation photographique des sexualités, lesbiennes, gays, trans et autres. Des photos de monstres de foire. Autrefois, des photos militantes dans les années 90 pour se faire voir, pour s'imposer violemment parfois à ceux qui voulaient continuer de fermer les yeux, notamment sur l'épidémie du sida. Des photos plus intimes aujourd'hui. C'est extrêmement intéressant parce que ça nous fait réfléchir au choix de l'image, à quel point il est clé dans le débat sur le mariage pour tous, sur la PMA, mais dans n'importe quelle autre question de société. C'est comment on nous représente, comment on nous montre, nous tous.
Bien sûr. Alors, c'est une très belle enquête d'Elisa Mignot et qui justement fait parler des photographes comme Robin Hamon et qui montre à quel point ils ont pu, grâce à l'image, aider des communautés. Des communautés qui, dans certains pays, notamment en Afrique, dans certains pays d'Asie, sont poursuivies et sont parfois victimes d'agressions.
C'est-à-dire qu'en fait, ça soulève deux questions, c'est-à-dire avoir sa place sur la photo, la photo d'un récit national, parce qu'il y a des communautés, il y a des minorités qui n'ont pas leur place sur la photo, et surtout, quelle photo, quel type de photo.
Voilà, parce que très, très souvent, et cette enquête le montre bien, ce genre de photo... soit accusé, soit faisait sourire, soit insister sur une différence.
Oui.
Le travail de Robin et des autres, tel qu'on le montre dans Polka, c'est de montrer que ces communautés doivent s'intégrer comme d'autres communautés. Elles ont leurs propres spécificités, très, très marquées, mais cette différence elle doit être acceptée. Et tout à l'heure, l'exemple que vous preniez avec cette image de la maman et de son garçon, ça montre, ça rapprochait.
Ça rapproche
le lecteur, celui qui voit, d'un seul coup se rapproche et se sent concerné. Et là, c'est la même chose par rapport à ces communautés qui sont soit attaquées, soit moquées, soit différenciées. Là, d'un seul coup, il y a quelque chose qui se passe.
Alors,
et on voit d'ailleurs dans cette enquête, cette une de l'équipe, où on voit deux nageurs, je crois que c'est du waterpolo, qui s'embrassent. Et ils en ont fait la couverture. Et cette couverture, elle a formidablement marché. Donc il y a eu une adhésion du public. Ils disent même que c'était un score digne d'une victoire de la France en Coupe du Monde. Donc ça montre, la photo, il y a vraiment le meilleur dans la photographie. Encore une fois, il peut y avoir le pire.
Photographie et politique, on continue. La photo, elle est également très récente. La photo de Donald Trump et de son vice-président dans la Situation Room de la Maison Blanche lors de l'élimination du chef de guerre djihadiste al-Baghdadi. Mise en scène, c'est interroger l'ancien photographe officiel de Barack Obama. Tellement cette photo est figée, mais tellement elle veut à tout prix rappeler une photo devenue mythique, celle de Barack Obama et d'Hillary Clinton dans la même Situation Room au moment de l'exécution de Ben Laden. C'est ça la photographie pour l'histoire, la photographie du politique qui entre dans l'histoire, la photographie pour l'histoire, avec un H majuscule.
Les deux photos que vous venez de citer, et le photographe, donc c'est Pete Souza, le photographe d'Obama.
Barack Obama.
Obama et Hillary Clinton, c'est la stupéfaction.
Oui.
Ils sont en train de commander une attaque. Il va y avoir mort d'homme, fut-il terroriste. Et il y a une stupéfaction, il y a une pudeur. Nous le faisons parce qu'il faut le faire. C'est un criminel et nous avons décidé de lui apporter la mort. Mais il n'y a pas de satisfaction. Donald Trump, il y a un cynisme. Il y a une sorte de gloriole. Donc voilà, à travers ces deux images, on voit deux présidences, on voit deux caractères. Et derrière ces présidents, on voit aussi peut-être deux peuples. Mm-hmm. Parce que cette photo de
et de rapport Trump, à la communication politique, voilà.
C'est mais là... n'a pas été mal accueilli aux États-Unis.
Non. Et deux présidents, on continue parce que vous avez évoqué récemment dans Polka deux présidents. Le premier, c'est Chirac. Je rappelle que vous étiez le directeur de la rédaction de Paris Match au temps de ses quinquennats. Oui. Vous avez raconté au moment de la mort de l'ancien président l'homme politique en action, le chef d'État en exercice. Pas de problème pour le photographier. En revanche, lui. Son blocage, sa frontière, sa limite à lui, c'était l'objectif dans son intimité. Vous avez dû le convaincre à l'époque.
Ah oui, c'était toute une histoire. J'avais créé avec Jacques Chirac un lien tout à fait professionnel et je pouvais aller le voir pour essayer pour discuter avec lui. Bon, on a eu des hauts et des bas, on a eu même des très très bas. Parce que parfois la photo, ça se retourne contre celui qui a pris la photo. Et quand on a fait notamment ce reportage à l'île Maurice, j'ai eu quelques problèmes avec le président.
Parce qu'il disait quoi ce reportage à l'île Maurice?
Il montrait un peu qu'il était dans une situation très 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 agréable et qu'il était invité. C'était relativement choquant. Mais peu importe. Quand je l'ai rencontré pour lui dire « Monsieur le Président, il faudrait un peu vous montrer à vos concitoyens », il était totalement réticent. Et je suis arrivé avec plusieurs photos de grands chefs d'État, de premiers ministres aussi sérieux que Kohl ou Thatcher ou George Bush père, et qui montraient par exemple George Bush père avec sa famille un dimanche matin au lit, et puis avec les petits enfants qui sont là, qui jouaient avec sa mèche, etc. J'ai montré ça, et notamment une photo de Pompidou qui était à la pêche à la crevette en boxer short. Donc il s'en est amusé, il trouvait ça formidable, et puis on a rangé les photos, il m'a dit pas question, moi je pourrais faire ça. Et puis finalement on a trouvé un moyen et on a réussi à faire une photo de lui, mais ça a été la seule.
Vous avez des mots très durs à l'encontre d'un autre président dans Polka et de son rapport à l'image et à la photographie. Emmanuel Macron, vous avez eu des mots très en colère, Alain Genestard. D'abord, c'est un président, expliquez-vous, qui se met en scène, qui éloigne les photographes de presse. Il les éloigne de l'Élysée, il les éloigne, il les parque pendant ses voyages présidentiels. Et lui, il fabrique sa propre image en invitant par exemple une superstar américaine de la photo à l'Élysée, Annie Leibovitz. Ou en étant en contrat avec la reine des paparazzis, Mimi Marchand.
Mimi Marchand, oui. C'est tout à fait normal qu'un chef d'État, qu'une grande personnalité travaille son image. C'est évident. Les Américains sont les premiers à le faire et les présidents français, de Mitterrand à effectivement Emmanuel Macron, ils le font tous. Le problème, c'est pas de la colère. Hein. Je suis pas en colère contre notre président. Il a l'air de travailler et puis il fait certaines choses.
Mais vous vous inquiétez. Inactif.
Mais je suis inquiet de voir. Je me dis mais comment on peut se cacher à ce point? Comment on peut c'est pas beau de mentir. C'est jamais bien de mentir. Et on peut mentir avec l'image. C'est une forme de mensonge. Et je crois que on parle de défiance de la politique, de crise de la politique. La franchise permet justement de résoudre une partie de cette crise, retrouver cette confiance. Alors cette confiance, on le fait par ses actes, on le fait par ses mots, mais on peut aussi le faire par l'image. Donc on ne demande pas au président de la République ou à n'importe qui de montrer toute son intimité, mais simplement avoir des accents de vérité.
Et c'est d'ailleurs l'un de vos grands questionnements en ce moment, Alain Genestard, c'est-à-dire on pointe systématiquement les fake news, les nouvelles, les informations volontairement détournées ou tronquées. Vous dites dans la fake news, il y a une part énorme de fake photos.
Oui, là, bien sûr qu'il y a la fake photographie. De toute façon, dans news, c'est pas que l'écriture, hein, c'est le son et c'est l'image. Oui, il y a de fausses photographies. C'est quoi une fausse photographie? Sans parler des images de propagande qui sont évidentes. On voit bien qu'une image qui arrive d'une dictature, il faut s'en méfier. Oui. Mais la fake photographie, c'est une photographie soit d'un homme politique qui se fait photographier et la photo montre le contraire de ce qu'il est. Mm-hmm. Donc ça, il faut la condamner, mais c'est relativement facile à faire. Ça se voit. La plus dangereuse, c'est la photo qui arrive, comme ça, et qui vous permet de diffuser une image qui arrive d'un autre bout du monde et qui vous semble extraordinaire. Mais à partir du moment où vous ne savez pas qui a pris la photo, si vous ne savez pas qui y a derrière celui qui a pris la photo, ça se trouve, il y a un fusil, il y a une situation improbable. Et donc, toutes ces fausses images inondent aujourd'hui le net. Et c'est pour ça que je reviens maintenant à la presse écrite et à Polka, pour se dire ce qui est gravé dans le papier, ce qui est imprimé sur le papier, a une valeur authentique. Polka, sa différence par rapport aux images qui peuvent arriver sur le net, et même dans certaines publications, c'est un journal qui est fait par des journalistes. Il y a des journalistes, il y a une grande équipe de journalistes expérimentés et qui vont chercher des images de par le monde et surtout qui vont produire des sujets et des reportages.
Mille merci. Alain Genestard, Polka est en kiosque avec Sébastien Salgado et des photos absolument extraordinaires du couturier Thierry Mugler. Bonjour Ali.
Bonjour Sainte Villard, je vous avais apporté du chocolat noir.
Miam.
On attend toutes vos questions sur
adorable.
Le chocolat dans Grand Main vous fasse. Appelez-nous au 01 45 24 7000.
Est-ce qu'on parlera du chocolat blanc?
Oui, mais il y aura gros débat.